day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Bien bonsoir à tous, vous êtes bien sur Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, une fois tous les 15 jours. Salut Pablo.
Salut Seb. Et oui, notre émission Infoculture, toutes les semaines paire, hein, c'est ça?
Semaine paire, tout à fait. Donc ce soir, on va essayer d'officier, on va essayer de combler l'absence de Sébastien et Romain, auquel on fait un petit coucou.
On les salue bien fort.
Et puis, on va présenter de toute façon tout ce qu'on aime, comme d'habitude.
Clairement,
c'est-à-dire.
Alors écoute, on aura du cinéma.
Cinéma, oui.
Oui, avec un film, Babylone. On va avoir des séries, deux séries. Hein. De l'autre côté, une série espagnole et puis The Walking Dead.
Yes.
Saison 11. Et puis, je crois que tu nous as préparé aussi un film, toi aussi.
Alors, un film, moi, un petit film d'animation qui s'appelle Fritzy. Donc, vous verrez, vous découvrirez. C'est assez intéressant. Moi, je l'ai découvert. Pourtant, il n'est pas récent. Il date d'il y a 2 ans, à peu près. Mais c'est une très, très bonne découverte et très intéressant. Et en plus, on peut le voir avec des enfants sans aucun problème. Et puis, bien sûr, j'ai un petit peu de bande dessinée, comme d'habitude, dans mon panier.
Parfait.
Et donc voilà. Eh bien écoute Pablo,
on a plein de musique.
On a plein de musique. Bah, je te propose Pablo de commencer par un petit
Lana Del Rey.
Oui voilà. Ah
oui. Donc, Lana Del Rey, Ultraviolence dans Bande Geek Mafia sur Radio G. Et c'est une spéciale dédicace à Gabi.
D'accord.
101.5.
La radio qui fait le point. Et c'est parti maintenant.
Stood for deadly nightshade, 'cause I was filled with poison, but blessed with beauty and rage. Jim told me that he hit me and it felt like a kiss. Jim brought me back, reminded me of when we were kids. Ultraviolence, ultraviolence, ultraviolence. like I was poison ivy. I could have died right then, 'cause he was right beside me. Jim raised me up, he hurt me but he felt it true love. Jim taught me love, loving him was never. Yo soy la princesa, comprende mis white lines, 'cause I'm your jazz singer and you're my cult leader. I love you forever, I love you forever.
C'était donc Lana Del Rey.
Oui, ça a coupé un peu brutalement, ça a surpris un petit peu là quand même, mais bon.
Lana Del Rey, donc une grande prêtresse de la chanson avec Ultraviolence.
Yes. Pour commencer en douceur.
Pour commencer en douceur, tranquillement.
Bah alors là, on va partir sur, sur le cinéma.
Cinéma, c'est parti. Alors, je n'ai pas eu le temps de chercher le petit générique, mais bon, on va ça pas faire le bipo, mais ça ira tranquillement.
En fait, voilà. Je vais vous parler de Babylone. Alors là, par contre... Ouais. Ça part sur les chapeaux de roue. C'est un film sorti en 2022 et qui passe actuellement dans les salles. C'est un film de Damien Chazelle. Alors Damien Chazelle, c'est celui qui a fait Whiplash. Entre parenthèses, un excellent film sur la musique. Et La La Land. Donc quand même très connu. Donc Babylone, sexe, drogue et jazz. Un hommage décapant au cinéma. Un film déjanté et dionysiaque. Je vous parle du synopsis. Il raconte le destin de plusieurs personnes de l'industrie cinématographique lors de la transition entre le cinéma muet et le sonore dans les années 20. Le film se présente comme le récit d'excès les plus fous, de l'ascension et de la chute de différents personnages lors de la création d'Hollywood. Une ère de décadence et de dépravation sans limite. Fermez les guillemets, je citais en fait le pitch du film proposé par les distributeurs. Le film Babylone semble polémique et diviser les spectateurs, tant il est excessif. Pour ma part, je ne boude pas mon plaisir. On y voit quatre magnifiques... on y voit quatre magnifiques losers, si on veut, dans leur grandeur et leur décadence. J'y vois une sorte de Gatsby, The Great Gatsby, Gatsby le Magnifique. Ou plutôt un Gatsby hardcore et déjanté, avec beaucoup d'autodérision, et notamment dans l'interprétation que fait Brad Pitt d'un des personnages principaux, toujours aussi magistral, Brad Pitt, et de Margot Robbie, juste excellente. J'y vois un hommage irrévérencieux et ambigu et ironique au cinéma. D'ailleurs, comment interpréter cette scène d'ouverture du film où un employé pousse un camion dans une montée en plein désert californien? Ce camion contient un éléphant qui s'apprête à arriver dans une fête déjantée, qui va lâcher sur lui un torrent d'excréments.
Ah ouais, ça commence bien.
Ça commence bien. Ah ouais, ça donne le ton. Ça donne le ton.
Oui, voilà. Le ton pour le chant. Hein,
c'est ça, exactement. Et alors, la séquence suivante est iconique. C'est une séquence d'orgie, une fête gigantesque, folle et extrême. Les corps sont lascifs et déchaînés, les images sont hypnotiques, la musique est effrénée. C'est celle qu'on entend actuellement, de Justin Hurwitz, Entre nous, excellente.
Attends, on va monter un petit peu le son.
Alors c'est à peu près le rythme du film, hein. Ça nous tient comme ça pendant au moins 2 heures. Là, je parlerai de la 3e heure. Cette fête est vraiment digne du dieu Dionysos. Il y a certes une rupture de rythme, effectivement, entre les 2 premières heures du film, l'ascension, et la fin, dernière heure, la chute. Le film dure 3 heures. Cela pourrait rebuter certains ou certaines. Pour ma part, je trouve que cela permet de se poser après un rythme effréné et de revenir à la réalité, tout comme les personnages, après l'illusion. Enfin, à signaler un long plan séquence, remarquable et cauchemardesque à la fois. Une plongée dans le milieu underground des freaks de cette époque. Absurde et effrayant à la fois. Donc Chazelle s'attaque à l'ogre hollywoodien. Pour ce faire, il s'arme d'une œuvre colossale aux dimensions extrêmes et à l'intensité brûlante. Il nous montre que cet ogre tout-puissant broie sans pitié ses étoiles, ces malheureux rêveurs et rêveuses qui ont cru en lui et lui ont sacrifié leur vie. Mais le réalisateur n'oublie pas la beauté au cœur de son art. Je cite « écran large ». 2 points, ouvrez les guillemets. Or, c'est justement ce qui passionne le jeune auteur, la vulgarité inhérente à son sujet, dans ce parangon de liberté foutraque que furent les années folles. Entre le western et le film de guerre, Chazelle filme le désert californien comme une énième frontière repoussée et le théâtre de véritables batailles où les tournages se multiplient en simultané. Tout ça pourquoi ? Pour la perfection d'une larme qui coule à la seconde près ou pour le hasard d'un papillon qui se pose sur une épaule en plein coucher de soleil. Une beauté éphémère, en accord avec ceux qui en sont les responsables, balayée à leur tour d'un revers de main. Et c'est peut-être ça que veut nous montrer le réalisateur, le cinéaste. Tout art, et même le cinéma, n'est qu'un art éphémère, ce qui n'enlève rien à sa beauté et à sa grandeur. Allez donc voir Babylone et vous enivrez de folie.
Et on va écouter justement maintenant la finale, l'officiel, l'audio officiel de Babylone. Et c'est parti.
C'est parti, vous allez voir, ça dépote.
effectivement, la musique en elle-même donne bien le ton du film. Ah ouais. On était en train de discuter, là, justement, 3 heures, quand même. Pas trop long, quand même.
Ben, en fait, vu que les 2 premières heures sont assez effrénées, là, on les sent pas passer. La dernière heure, effectivement, ça pose. Et c'est là que, souvent, il y a des réactions différentes selon les spectateurs. Moi, j'ai trouvé que voilà, ça, c'est la résolution de ces 4 ou 5, parce qu'il y a aussi un 5e destin. 5 destins, voilà, on a vraiment approfondi les personnages, on a une résolution, on a quelque chose qui aboutit. Non, ça va. Et effectivement, j'ai l'impression que Chazelle s'est doté d'un truc assez large pour aborder les années 20 de Hollywood.
Il y a de quoi faire, hein, ouais, aussi, en même temps sur cette période, clairement. C'est clair. Donc voilà, tu nous redis...
C'est Babylone de Damien Chazelle.
Donc à voir, ça donne envie.
Et alors, de quoi vas-tu nous parler, mon cher Seb ?
Alors moi je vais vous parler de autre chose, mais alors totalement différent. Et puis on va commencer, alors si ça veut bien partir gentiment, par la bande-annonce. Alors j'espère qu'elle est en français, parce que c'est une petite découverte, c'est une petite pépite allemande qui... alors attendez, oui, bah justement, là, en attendant, on a la publicité, donc on va passer, voilà. Donc qui s'appelle Fritzi, une aventure révolutionnaire. Alors ça, moi, je l'ai découvert vraiment par pur hasard. Je me suis dit, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est parti. Si je retrouve le son, ça serait pas mal. Tac.
Sois bien sage, Spoutnik. Écoute bien, Fritzi.
Oh, Spoutnik !
Je suis restée à la maison à Leipzig et j'ai pris soin de son petit chien, Spoutnik. Sans Sophie, l'été était ennuyeux. Sophie sera de retour demain. L'école a recommencé. Mais Sophie n'était pas revenue. Tous les élèves sont présents ce jour, à l'exception de Sophie Bonny.
Quelqu'un sait où elle se trouve ?
Sophie a eu un empêchement, c'est tout.
Fais attention, t'approches pas de ces gars-là.
Est-ce que tu savais que Sophie voulait fuir vers l'ouest ?
Non, je savais pas.
Et pour Spoutnik, alors ?
Écoute, dans quelques années, Sophie sera probablement autorisée à revenir en RDA.
Dans quelques années ?
Nous voulons être libres.
Les gens sont descendus dans les rues. Ils ont manifesté pour la liberté et l'ouverture des frontières.
Nous sommes le peuple ! Nous sommes le peuple ! Nous sommes le peuple !
Et j'étais au milieu de tout ça. Moi aussi, je veux changer les choses. C'est pas juste que Spoutnik et moi, on puisse plus jamais revoir Sophie.
Attends, qu'est-ce que t'as derrière la tête, Fritzi ?
Je veux amener Spoutnik à Sophie.
Et traverser la frontière ? Il y a des soldats, avec des chiens et des armes.
Au revoir, maman.
Eh, ma chérie,
tu ne pars que 4 jours.
Si tout se passe comme prévu, tu seras avec Sophie dès demain.
Tu sais te servir d'une boussole ?
W, c'est pour l'Ouest. Ma grande aventure a commencé. Allez, Spoutnik, il faut se dépêcher. Spoutnik, reviens !
Voilà pour la bande-annonce. Donc il y a eu un petit mix aussi avec Babylone sur le bon de son. Mais donc voilà. Donc en clair, c'est un animé allemand qui nous replonge dans la période de 1989. Cette période un petit peu, la période de l'été 89, été jusque au mois de novembre 89. C'est quelques mois où tout va basculer finalement, où la guerre froide va complètement exploser. Et on va suivre l'aventure finalement de Fritzi, hein, c'est donc le personnage principal, qui veut retrouver finalement son ami pour lui ramener son chien Spoutnik. Alors déjà, rien que le nom, tout un programme, et qui va découvrir finalement aussi la réalité de cette Allemagne de la RDA que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître maintenant, mais avec tout son endoctrinement et puis cette population surveillée justement par la Stasi. C'est superbement bien fait parce qu'on a des images d'archives aussi en même temps qui ont été donc colorisées par l'intermédiaire de palettes graphiques. Donc en clair, ça devient un dessin animé aussi en même temps. Au niveau technique, il y a vraiment une technique extrêmement importante. Tout est fait sur ordinateur, mais alors graphiquement, voilà quoi, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un petit bijou. Et puis on s'ennuie pas, on suit avec attention. La tension est à son maximum quand même. Va-t-elle retrouver son ami ? Va-t-elle pas retrouver son ami ? Donc voilà, tous les éléments pour avoir un bon moment. Et puis c'est quelque chose qu'on peut regarder aussi avec les enfants aussi en même temps pour leur expliquer que finalement la voix du peuple, c'est important. Je pense.
Nous sommes la voix du peuple.
Nous sommes la voix du peuple.
Et le petit chien alors, Spoutnik ?
Bah, Spoutnik, ça va très bien pour lui.
On a peur pour lui, là.
Bah, on a peur, mais je ne peux pas vous le dire autrement.
Tout, je ne veux pas spoiler.
Bah, je ne veux pas spoiler. Il n'y a pas de vidéo gâchée.
Ouais, ouais, ça a l'air super. Et c'est vrai que dans le, comment dire, dans le genre de l'animé, on ne connaît pas trop les films allemands.
Ouais, tout à fait, on ne le connaît pas. C'est, puis là, c'est
une
vraiment...
Une grande tradition tchèque. Hein,
ouais.
Bien sûr, française, qu'on connaît, voilà. La japonaise, j'en parle pas, mais c'est vrai qu'allemande, qu'on débat, donc c'est super intéressant.
C'est super intéressant. Alors donc là j'ai retrouvé mes fiches aussi en même temps, un petit peu plus. Donc déjà, Fritzi, à la base, c'est un livre aussi en même temps, un livre pour enfants. Donc c'est une adaptation du film de Anna Schott et de Gerda Red. Donc voilà, donc je ne veux pas vous faire... Je ne vais pas vous faire entendre mon allemand qui est déplorable. Donc voilà. Et c'est une adaptation qui a été assez longue aussi à faire, hein, puisque c'est en 2010 que Ralph Kukula et Mathias Brun ont eu l'idée d'en faire un film. Donc c'est eux les réalisateurs, les adaptateurs. Donc vous voyez, et le film va sortir en 2019. Donc il a fallu 9 ans de gestation pour pouvoir faire en sorte qu'il sorte. Bah, faut dire que l'adaptation aussi, palette graphique, même si c'est assez rapide, ça prend du temps, quoi. Et ouais, non, la thématique est vraiment très très intéressante. Donc voilà. Donc moi je vous le conseille. On le trouve en DVD, très très bien.
D'accord. Donc voilà. Tu nous rappelles le titre ?
Eh bien, c'est Fritzi, une aventure révolutionnaire. Et donc, voilà.
Trop
bon
bien.
Visionnage.
Merci Seb.
De rien. Bon, un petit morceau de musique.
Allez.
Alors,
Qu'est-ce qu'on se met ?
Oh,
bah, alors, on a plein de propositions.
Ouais.
Hein.
Ouais. Ouais, alors, on a plein de propositions.
C'est comme tu veux, tu choisis.
Oh, bah, je vais prendre le premier, CVC.
Alors ça, CVC, c'est Sébastien qui nous le propose. Alors, j'ai fait une petite recherche quand même, parce que je ne connaissais pas. C'est un jeune groupe qui vient du Pays de Galles, près de Cardiff, et qui, est manifestement, s'est beaucoup nourri aux Beatles, voire aux Beach Boys. Voilà, CVC, ça veut dire Church Village Collective.
D'accord.
Dans Bangit Mafia, évidemment.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point. Et c'est parti maintenant.
I'm
Merci Seb pour cette petite découverte qui est bien sympathique hein, quand même.
Voilà, hein, CVC, Docking the Pay.
Donc, ouais, très bien. Donc un autre film, Pablo ?
Eh bien en fait, une série.
Une série, d'accord.
On attaque sur les séries. Alors j'ai deux séries à vous présenter et là je vais commencer tout de suite par une série espagnole qui s'appelle L'autre côté ou La Valla en espagnol. Alors La Valla, littéralement, ça veut dire la clôture. Elle passe sur Netflix, créée par Daniel Essira, une saison, 13 épisodes. C'est une dystopie politique sur le mode telenovela hispanique. Alors, synopsis. Espagne, en 2045. Après la Troisième Guerre mondiale, le pays a changé. Les maladies incurables dues à l'épidémie de Novavirus y sont apparues et les gouvernements autoritaires ont volé la liberté aux citoyens. Après la mort de Sara Pérez Noval, son mari Hugo Mujica, et sa fille Marta, accompagnés d'Alejandro, Alex, Mujica, frère de Hugo et oncle de Marta, arrivent à Madrid dans le secteur 2. Ils retrouvent Emilia Noval, la grand-mère de Marta, ainsi que Julia Pérez Noval, sœur jumelle de Sara. Lors de la visite médicale pour inscription, Marta est emmenée de force dans une colonie pour enfants de parents chômeurs dans le secteur 1, c'est-à-dire derrière la clôture. Hugo est prêt à tout pour récupérer sa fille. Grâce au soutien de sa belle-mère, qui a contacté le ministre Luis Covarrubias, il a l'autorisation de passer au secteur 1 chez ce dernier pour y travailler en tant que majordome. Mais il doit être accompagné de son épouse. Il demande alors à Julia de se faire passer pour sa sœur jumelle. Une série espagnole réussie et prenante, simple et efficace, qui nous transporte à Madrid dans un futur proche, dystopique. Le contraire d'une utopie donc. L'Espagne a alors plongé dans une dictature fasciste. On y retrouve tous les codes de la société de contrôle, avec sa bureaucratie pesante, de l'autoritarisme et des abus de pouvoir, de la peur, voire de la terreur imposée au peuple. Mais aussi de la discrimination sur des bases sociales. Et non pas racial. Le Novavirus menace certes tous les humains, mais les privilégiés du secteur 1 se protègent des pauvres du secteur 2. Le logo du gouvernement n'est pas sans rappeler la croix gammée nazie, même les uniformes des officiers y font référence. Et bien sûr, on retrouve les collabos contre les résistants, mais aussi celles et ceux qui paraissent collaborer au régime, mais qui résistent dans l'ombre, attendant leur heure pour agir. On retrouve aussi les slogans positifs de la novlangue totalitaire, mais je dirais que son originalité n'est pas là. Ce qui fait la singularité de l'intrigue, ce sont ces enlèvements d'enfants sur lesquels les scientifiques testent de possibles vaccins contre le virus. C'est clairement une référence à d'autres enlèvements d'enfants qui ont eu lieu sous les dictatures espagnoles, sous Franco, ou sud-américaines. Les militaires kidnappaient des enfants des opposants arrêtés, disparus et bien sûr assassinés, pour ensuite les donner à des familles riches, proches du pouvoir. Dans le genre post-apocalyptique, on n'est pas dans une série culte du genre The Handmaid's Tale, La Servante Écarlate, mais cette série tient la route et ses promesses addictives. Le jeu des acteurs est bon, les épisodes se terminent avec des cliffhangers efficaces. Or, ce qui est plaisant ou légèrement drôle, c'est la direction d'acteur, très proche de la telenovela latino-américaine, avec ses moments d'émotion fortes, ses gros plans sur les visages graves, l'expression explosive de la passion, la passionne.
La passionne.
La passionne. Passion. Du coup, ce petit contraste entre la noirceur de la dystopie politique et la dramatique de la telenovela est assez original et plaisant. C'est aussi ce qui fait sa limite hein, et qui pourrait en irriter certaines ou certains habitués aux séries américaines ou scandinaves. Or, cette série résonne fortement avec notre situation actuelle. Guerre, pandémie, désastre écologique, montée de l'extrême droite et des gouvernements autoritaires. Bref, l'autre côté, la Vaya, vous serez tenu en haleine, allez-y, tranquille.
Oh, ça a l'air super, ça. Diffusé sur toutes les bonnes...
Sur Netflix.
Voilà, donc évidemment. Il y avait un autre morceau de musique que tu nous mettais là, sur la baila. On peut l'écouter aussi en même temps.
Un tout petit peu.
Ah, s'il veut bien partir. Mais il veut partir.
Dans un moment comme ça, voilà, souvent dans des moments assez tendus, assez qui montent en puissance. Et honnêtement, c'est une série qui a reçu une très bonne critique, un bon accueil des spectateurs et qui tient vraiment la route. Quoi.
C'est quand même assez paradoxal, une série espagnole qui parle d'un régime fasciste, mais ils n'ont pas connu un petit peu ça en moment.
C'est ça. On sent qu'il y a quand même des choses qui se règlent. Et effectivement. Avec une référence un peu plus élargie, mais vraiment voilà, on revient, on a l'impression d'un retour à ces années sombres. Hein.
Non pas un retour vers le futur, mais un retour vers le passé qui pique un peu quoi.
Qui pique.
Mais ça a l'air. Ouais, la musique en tout cas donne envie. Donc c'est sympa. Donc voilà.
Alors, on passe.
Ouais. Qu'est-ce que tu...
À une deuxième. Allez.
The Walking Dead. Alors, The Walking Dead, j'ai été vraiment fan dès le début.
Et raconte alors.
Et je vais te laisser faire et puis on en parlera après.
Tu t'es un petit peu essoufflé.
Un petit peu, le mot est faible.
Un peu beaucoup. Mais oui, et je te comprends, on en est quand même à la 11e saison. Ouais. Rassurez-vous, c'est la dernière. Voilà. The Walking Dead, spéciale dédicace à Laetitia, une grande fan de la série. Alors, c'est une série imaginée et créée par Robert Kirkman et Charlie Adlard. Et c'est parti pour un tour. Nous voilà replongés dans Zombieland en mode survivaliste. Alors, le générique iconique. Cette fois, ça sent vraiment le sapin, les gars. C'est le début de la fin. Puisque cette saison 11 est normalement la dernière, qu'elle est constituée de trois parties et que la partie A et B sont actuellement diffusées sur Netflix, c'est d'elle que je vais vous parler, et que la partie C est diffusée depuis octobre dernier sur OCS, mm-hmm. après 11 saisons de bons et boyaux services.
Oh, c'est joli.
Oui. La production se lancera dans des spin-offs sur certains des personnages principaux. Certainement Daryl, Rick, Michonne, Maggie, Negan. Je pense que ça spoile légèrement, mais on pressent bien ces personnages. Synopsis. À l'origine, après un phénomène d'origine virale qui a subitement transformé la majeure partie de la population mondiale en rôdeurs ou morts-vivants, un groupe d'Américains, auparavant guidé par Rick Grimes, ancien adjoint du shérif d'un comté de Géorgie, tente de survivre tant bien que mal. L'histoire se concentre sur la rencontre du groupe avec le Commonwealth, un vaste réseau de communautés disposant d'un équipement de pointe et de plus de 50 000 survivants, vivant dans différentes colonies. Avec également une confrontation du groupe avec les Faucheurs, une mystérieuse faction de survivants hostiles qui ont attaqué et pris Meridian, la colline, l'ancienne colonie de Maggie.
Yes.
Alpha et sa bande de chuchoteurs ont fait de sérieux dégâts à Alexandria. Alexandria, je rappelle, c'est le QG principal de nos héros depuis la saison 5. Des pertes humaines, évidemment. Les murs d'enceinte sont endommagés, les cultures sont ravagées. En plus des zombies, dits rôdeurs, mordeurs, déglingués. En plus des zombies, donc, la famine menace. Rick Grimes a disparu. Et Michonne, la femme samouraï, est partie à sa recherche. Bref, on est mal. Mais dans ce monde apocalyptique, on a l'habitude d'être mal. Mais un peu moins quand même depuis que Maggie est revenue. Toujours aussi sexy et badass, elle décide de mener une expédition avec un groupe dont Daryl, Gabriel et Negan pour atteindre la colline où il y aurait des vivres cachés. Évidemment, pour celles et ceux qui ont suivi les péripéties de nos héros post-apo, vous le savez, c'est très tendu entre Maggie et Negan. Le contentieux est de taille. Il date des saisons 7 et 8. Comment ces deux-là vont-ils faire pour cohabiter sans s'entretuer ? Le problème est qu'on comprend vite que la colline a été occupée par un groupe armé et très organisé, les cruels faucheurs. Comment faire alors pour récupérer les lieux et la nourriture vitale ? Nos héros vont croiser le chemin d'une communauté incroyable qui semble extraordinaire en tout point, le Commonwealth, qui compte 50 000 personnes vivant pacifiquement entre elles. Une communauté très organisée, très structurée, très sécurisée ou très sécuritaire. Le Commonwealth est-il ce paradis, ce refuge et ce sanctuaire de paix et de liberté qu'il prétend offrir ? Ou est-il un vestige du monde d'avant, mais en pire ? La série The Walking Dead nous plonge au cœur de l'effroi, avec ses zombies toujours menaçants, avec la mort qui peut frapper à tout moment, de la difficile survie, voire impossible survie, dans un monde apocalyptique. Et d'ailleurs, quel sens y a-t-il à vivre ou survivre dans un monde qui est parti en sucette ? Mais il faut surtout se rappeler que ce ne sont pas les zombies les plus dangereux, mais bien les humains, avec leur violence, leur cupidité et leur soif insatiable de pouvoir. Des humains qui sont pris dans la tourmente de la violence et la folie, et qui sont prêts à tout pour survivre. C'est le retour à l'état de nature, décrit par Thomas Hobbes au XVIIe siècle, dans son livre majeur, Le Léviathan, où l'humain, livré à ses seuls instincts et désirs capricieux, sans foi ni loi pour le guider ou le cadrer, devient un loup. C'est le célèbre « L'homme est un loup pour l'homme ». Homo mini lupus. Mais la série montre aussi les systèmes de solidarité et d'entraide qui se réinventent, basés sur l'empathie, la confiance, l'amitié, voire l'amour. Cette série nous montre que les relations humaines ne sont pas binaires, genre égoïsme contre altruisme, violence contre douceur. Elles ne sont pas binaires, mais plus complexes ou ambiguës parfois. Ainsi peut-on être aimant et solidaire avec les siens, mais féroce et impitoyable envers ceux qui nous menacent. Alors, à l'issue de tous ces épisodes, la question que tout le monde se pose, où est Rick ? Où est Rick Grimes ? Mais où est-il donc passé, bon sang ? Et s'il revient, sera-t-il toujours le même ? Suite aux prochains épisodes dans la partie C. The Walking Dead.
Mais ça se corse.
On peut se poser la question, est-ce vraiment la fin, même à la fin de la troisième partie?
C'est ça, c'est toujours, est-ce qu'ils vont pas encore rallonger la sauce? C'est toujours le problème.
La musique,
t'as bien fait de mettre la musique comme ça, parce qu'effectivement, elle est assez révélatrice, c'est-à-dire à la fois de choses qui sont installées parfois en douceur, mais en même temps, on sent toujours la tension monter, possiblement.
Alors, je vais rien divulgâcher parce que moi, la troisième partie, je l'ai déjà vue.
D'accord.
Je l'ai déjà vue. Et donc, à vous de voir.
C'est une fin qui n'est pas une fin. En tout cas, voilà.
Voilà. Voilà, c'est on sent bien de toute façon que l'attrait commercial autour de Walking Dead a été quand même assez énorme.
Ouais.
Alors moi, c'est, comme je l'ai dit au tout début de ta chronique, c'est une série que j'ai accrochée hein, sur les premières saisons, j'ai vraiment accroché. J'avais surtout envie de savoir hein, qu'est-ce qui est à l'origine finalement de cette maladie, parce qu'à la base, il faut pas oublier, c'est une maladie qui transforme les gens en morts-vivants quoi, une fois qu'ils sont décédés. Mais et au final, au fur et à mesure de l'avancée donc de la série. Eh ben, on perd un petit peu ce fil pour se concentrer sur comment survivre dans un monde, là, comme tu l'as expliqué, dans un monde où il n'y a plus rien, quoi, finalement.
Ouais,
et puis ben là, après, on est parti sur pas mal de parlotte, et j'avoue qu'au bout d'un moment, la parlotte, elle m'a
c'est
perdu.
Vrai. Et c'est vrai qu'on avait, l'espoir avec le personnage d'Eugène,
oui.
D'arriver quand même à un moment, à une réponse, et puis plouf, plus rien. Et alors, il semblerait que dans les spin-offs, ils aillent chercher ou qu'il y ait aussi d'autres. Tales of the Walking Dead.
Ouais.
Il y a d'autres.
C'est Fear the Walking Dead aussi en même temps. En clair, ils ont décliné. Le produit, ils l'ont décliné. Ce qui est un petit peu dommage aussi en même temps, c'est qu'à la base, on oublie, c'est quand même un comics. Et le comics a été dépassé par la série. C'est-à-dire qu'à un moment, on a une division, quoi, une distension entre le comics et puis la série. Et la série a pris le pas finalement sur le comics. Et c'est un petit peu dommage. On a perdu l'essence même, de cette série, ce qui faisait le sel de cette série, en tout cas pour moi au départ. Et après, c'était de la parlotte. On était toujours sur le même rythme, on découvre une nouvelle communauté, on fait copain, on se tape dessus après, voilà. Et puis après, on recrée quelque chose, et puis on retrouve. Et au final, c'est un cercle, ça tourne tout le temps pareil.
Tout à fait. On a quand même l'impression de ça, ouais.
Ouais.
Ça avance dans le temps, plusieurs générations passent. On a des mystères sur la disparition des personnages, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a un côté cyclique qui, à un moment, on se dit mais peut-être qu'effectivement. Ce que montre aussi peut-être la série, c'est qu'on ne peut pas arriver à cette réponse parce qu'on est préoccupé de la survie et que pour arriver à cette réponse, il faudrait déjà vivre, simplement être posé un moment et pouvoir faire ses recherches. Et c'est pas possible.
C'est pas possible.
Ouais. C'est pas possible. Mais t'es quand même allé jusqu'à la fin. Hein.
Eh oui, disons que ma petite chérie a beaucoup adoré.
D'accord.
Donc,
Elle a poussé.
Et puis, on l'accompagne. Même si moi, je dormais plutôt à côté, mais c'est pas grave.
J'ai quand même été jusqu'au bout. Mais avec beaucoup de difficultés.
Ouais,
bon. Un petit morceau de musique.
Alors,
tu nous as proposé un drug dealer.
Alors, drug dealer, fait, Fit Kate Bollinger. Pictures of You, c'est une proposition de Seb.
Encore
qu'on embrasse encore.
C'est
Bande de Mafia sur Radio G101.5.
La radio qui fait le point, et c'est parti.
Say, thought it would occur to you. I tried to just forget it wasn't something I could do. I never wanna let it get to where it got with you. Now I get to bed.
encore une bonne découverte. Hein. Merci Seb, hein,
ouais,
finalement.
Drug dealer.
Il n'est pas avec nous, mais il est quand même avec nous. Voilà, son, hein, esprit, voilà, est là. Son esprit est là.
Ouais, ouais, ouais. Et il manque Romain aussi.
Il manque Romain.
Tout à fait. Mais effectivement, c'est assez chill. Hein, comme,
c'est chill,
comme,
c'est tranquille, c'est sympa. Mmh. Une bonne découverte.
Ouais.
Bon. Eh bien, on va passer sur la bande dessinée.
Oui, ouais, qu'as-tu donc dans ton panier?
Oh, bah j'ai dans mon panier, j'en ai une bande dessinée, je l'ai découvert juste hier, je l'ai lu hier soir, je me suis éclaté hier soir. J'ai dit non, ça, il faut que je le présente. Alors, le titre déjà, rien que le titre, Le Royal Fondement, La Face Cachée du Roi Soleil, Philippe Charlot et Eric Hübsch, aux éditions Grand Angle. Alors, ne tournons pas autour du pot. Il sera ici question d'histoire, d'amour, de bistouri et de bistouri recourbé à la royale. Oula, oula, nous sommes en 1686. Le roi souffre, et pas n'importe où. Une fistule aussi vilaine que mal placée le torture depuis des mois. L'opération délicate, inédite, mortelle peut-être, est la dernière option qui s'offre à Louis le XIVe. Une occasion rare d'approcher le soleil par sa face cachée. Alors que, hurlant à la lune, les princes d'Europe montrent déjà les dents prêtes à déchiqueter le royaume de France. Donc déjà, là, ça c'est déjà pas mal. Le jeune Geoffrey, lui, voit de grand, très grand, un barbier. Voilà un métier qui plaît aux dames, être barbier à cette époque-là. Il faut dire qu'elle ne se bouscule pas dans l'échoppe de son boucher de père. Ne serait-ce pas la faute de cette enseigne qui encadre la porte de la boutique où il est écrit « Chez l'imbécile heureux qui a vendu sa promise en morceaux ». Et oui, dans la famille, on ne fait pas les choses à moitié lorsqu'il s'agit d'amour, apparemment. Donc une histoire d'amour avec un peu d'histoire et puis voilà. Et surtout ça sur intrigue royale.
Ah oui, je pense que tout le monde a compris ce qui était le fondement.
Oui, ouais, on va pas faire un dessin.
Voilà. Mais alors, ça a l'air. On a l'impression qu'ils se sont bien amusés. Quoi.
Ah, mais ils se sont amusés dès les premières pages. Hein. La rencontre entre justement le héros, le jeune Geoffroy, et le roi Louis XIV. Mais alors, c'est voilà. On a l'impression en plus. Moi, ce que je trouve génial dans la réalisation, c'est que par certains côtés, le roi Louis XIV, tel qu'il est dessiné, bah, tu mettrais Louis de Funès, tu aurais exactement la même chose avec ses grimaces. Donc c'est assez marrant, c'est assez cocasse, sans rien dévoiler. Hein, il se retrouve dans un salon, simplement, et puis là, d'un seul coup, il voit arriver un vieux monsieur déplumé, donc voilà, sans cheveux, en train d'essayer de se soulager derrière le canapé. Hein, comme à Versailles, on sait très bien que Versailles à cette époque-là, en réalité, c'est une fosse à purin à ciel ouvert. Donc voilà, bah, lui, du coup, puis lui prodigue quelques conseils. Ah. Et puis voilà, et ça commence comme ça.
Ah d'accord.
Donc voilà, c'est assez marrant.
Ah, ouais.
C'est très très marrant, hein, aux éditions Grand Angle. Moi j'adore cette.
Mais et du coup, c'est pas que pipi caca. Hein.
Non, c'est pas que pipi caca.
Il y a quand même une histoire d'amour et quand même.
Et puis une intrigue politique derrière aussi en même temps, parce que là voilà, il y a quelque chose qui est sous-entendu. Donc Le Fondement Royal, La Face Cachée du Roi Soleil, Philippe Charlot et Eric Hübsch, aux éditions Grand Angle. Et donc voilà, je vous le conseille. Avant de commencer, continuer une bande dessinée, moi je propose un petit morceau de musique.
Alors lequel qui t'intéresserait là?
Ouais, on va prendre Wax Taylor.
Alors écoute, je crois que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Moi c'est un artiste que je suis depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup, donc c'est un artiste électronique français. Et alors là, il nous propose Freaky Circus, feat Napoléon, Da Legend et Mr. Leaf. Freaky Circus, c'est le premier LP qui sort de son prochain album, qui annonce un peu la couleur.
Donc,
dans Band Geek Mafia.
Sur Radio G, 101.5, la radio qui fait le point.
Ladies and gentlemen, boys and girls from all ages, step right up.
Let's get started.
The greatest show on earth. The goats get the perks. Wet work, catch a body, then collect the purse. Glass palaces with fallacies, it's real. Got more dreams than reality could ever kill. Bought them and barely got them bargaining. But start them on the daily, sleight of hand.
deck of cards, they shuffled and it's shady. Witnessing the ringmaster work the magic. The prize is in the sky, not the limit. Put you in the dirt to catch it. Virgin bastard, Birkin bash, crocodile attachments. You dropped out, declining, y'all. No Charlie Chaplin. But yes, bro, them dudes is probably laughing. After the show and lights, he's back at the car relapsing. Stars on the fast track, dudes is hardly rapping. Made it an art form, specialized in party crashing. Nothing karma can't cash, got you ransacked. Came back for your bag, homie, ran that.
It's like a jungle sometimes. Sometimes you feel people getting nervous. It's like a jungle sometimes. Sometimes we're living in the freaky circus.
In the freaky circus.
Attention, attention.
Sometimes we're living in the freaky circus.
The ringmaster, a spectacle so you buy tickets faster. The spellcaster, aka the puppet master. I appear with bright lights and chairs. Use chairs to tame animals you usually fear. Death inviting your attempts to try and view behind the curtain. Your intrigue leads me to believe the scheme is working. My design, believe, is more devious with time. The lines between what's legal and crime are undefined. Stay blind to all that jargon, cause you really got a bargain. Not a peep, yeah, I need you asleep, the show is starting. The elephants say never forget, I drown in debt, standing on their hind legs, saluting regrets. The lions are frightened, ran to my contortionist to bite them. We delighted, presenting these two worlds colliding. The clowns, oh, that's all of us who live in any town. The prices go up, the taxes keep you run down. A culture that crafts vultures, predators are sculptures, masterworks for those who can't look past the perks. We hear the cries, hence we're nearby to capitalize. That's why I greet you personally when you arrive.
It's like a jungle sometimes. Sometimes you feel people getting nervous. It's like a jungle sometimes. Sometimes we're living in the freaky circus.
In the freaky circus.
People getting nervous.
Sometimes
we're living in the freaky circus.
The below world, where no one ever has, where no one ever will.
Let's check it out. That's a little freaky.
Yeah, you're right, Dan.
We're living in the freaky circus.
Eh bien, c'était pas mal, ça aussi, une bonne
ouais.
Petite découverte.
Wax Taylor.
What's Taylor?
Freaky Circus.
Sympa, sympa, sympa.
Et alors, tu as une autre BD à nous.
Alors, j'ai une autre BD là pour terminer. Yes. De Morvan, Évrard, Ben Beka. Les amis de Spirou. Un ami de Spirou est franc et droit. Alors ça, c'était pas mal aussi. Charleroi, septembre 1943. Ils sont six amis de Spirou, des enfants espiègles et courageux, révoltés par l'occupation. Ils appliquent le code d'honneur du journal de Spirou, écrit par le Führer, et se lancent à corps perdu dans la résistance. Cimetière de Marcinelle, 30 décembre 1944. Deux tombes, celles de deux membres des amis de Spirou, tués pendant la guerre. Ému, Jean Doisy, alias le Führer, prononce leur oraison funèbre. Il confie sa culpabilité, mais aussi sa fierté à l'égard de ces jeunes qui ont tenu tête aux nazis avec leur imagination et ses préceptes pour seule arme. Trop courageux pour capituler, trop jeunes pour mourir. Ça plombe un petit peu l'atmosphère.
Ouais.
Mais c'est pas mal et c'est tiré d'une histoire vraie, c'est d'après une histoire vraie. Donc c'est réellement arrivé. Effectivement, il y a de jeunes résistants belges qui ont appliqué finalement le principe, le code d'honneur finalement du journal de Spirou, des amis de Spirou. Donc l'entraide, voilà. Et du coup, on le retrouve, voilà quoi. On retrouve ce code illustré et vraiment c'est très très poignant. Et on termine aussi avec un cahier d'explications finalement sur. Le saviez-vous? Donc on apprend encore des choses aussi en même temps. C'est extrêmement émouvant, très bien fait et vraiment, vraiment très bien. Une très très bonne bande dessinée aussi pour ceux qui aiment Spirou. Donc là on retrouve un petit peu Spirou, l'univers de Spirou.
et le graphisme.
Graphisme, c'est un graphisme, un joli graphisme aussi
ouais,
en même temps. Voilà, c'est un peu à mi-chemin entre Titeuf et puis d'autres personnages. On n'est pas sur du manga, mais c'est extrêmement intéressant.
Ouais. Donc tu nous rappelles le titre alors du coup ?
Alors, de Morvan Evrard, Ben Beka, Les Amis de Spirou. Un ami de Spirou est franc et droit, aux éditions Dupuis. Et puis bien sûr, le plus marrant quand même, parce qu'on va peut-être pas terminer sur une note trop triste, Le Royal Fondement, la face cachée du Roi Soleil, aux éditions Grand Angle de Philippe Charlot et Eric Hubbush.
Eh ben nickel.
Eh ben voilà, ben oui, merci, mais voilà.
Je crois qu'on approche.
On approche de la fin. On est plus proche de la fin que du début, malheureusement.
Voilà, c'est ça.
Donc, pour terminer, je vous propose un dernier petit morceau de Muse.
Tu vas te faire plaisir.
Ouais, je vais me faire plaisir.
Alors, Will of the People.
Oui, tout à fait. Et puis, on va vous dire à dans 15 jours.
À dans 15 jours, les amis.
À dans 15 jours, les amis.
Gros bisous.
Ciao.